Marial, l'enseignement.
Voici l'explication, par des mots simples, du message de Lourdes. L'aventure en est au moment où les sœurs Soubirous quittent leur foyer pour aller ramasser du bois. Le père Régis-Marie de la Tessonnière.
Voici donc que les trois fillettes quittent le cachot. Le cachot était, et il est toujours, rue des Petits Fossés. Elles prennent à leur droite, au bout de la rue des Petits Fossés, c'était la rue du Baous. Maintenant, c'est le haut de la rue de la Grotte. Très rapidement, elles arrivent à l'extérieur de la ville, car à ce moment-là, par rapport au sanctuaire, la ville de Lourdes était construite de l'autre côté du château. Elles arrivent à proximité du Gave. Elles franchissent le Gave en traversant le pont vieux, ce pont vieux qui existe toujours. Et puis voici qu'elles arrivent là où se trouve maintenant dans le sanctuaire le forum information. Il y avait un petit moulin, le moulin de Savy, desservi par un canal, le canal de Savy. Jeanne Abadie et Toinette Soubirous, arrivées les premières, veulent s'arrêter. Bernadette arrive à son tour et leur dit « Allons plus loin ». « Allons », leur dit Bernadette, « à l'endroit où le canal, donc le canal de Savy qui était juste devant elle, « Allons, leur dit Bernadette, à l'endroit où le canal rejoint le Gave. » Les trois fillettes traversent ce qui était alors une immense prairie, c'est devenu l'esplanade du Rosaire, et elles arrivent à l'endroit précis où le canal rejoint le Gave, c'est-à-dire devant la grotte de Massabielle. Aujourd'hui, quand nous sommes devant la grotte, si nous pouvons approcher, s'il n'y a pas trop de monde devant, nous pouvons voir un petit peu sur la gauche une plaque jaune où il est écrit « Ici, priez Bernadette, le 11 février 1858 ». Et devant cette plaque, peut-être 30 ou 50 centimètres plus en avant, une autre plaque où il est écrit « Emplacement de l'ancien canal ». Donc, Jeanne et Toinette, arrivées les premières, se déchaussent, traversent ce canal sans grande difficulté. Il n'était ni très large, ni très profond, à peu près 1,5 mètre de largeur, et les fillettes ont de l'eau jusqu'aux genoux. Mais elles le traversent en pleurant, car en ce 11 février, l'eau est glaciale. Bernadette, arrivée à son tour, est là, empêchée, ne pouvant ni avancer, ni reculer. Comprenez bien, juste devant Bernadette, l'eau du canal. Juste derrière elle, l'eau du Gave, puisqu'elle est à l'endroit précis où Gave et canal se rejoignent. Et face à elle, la grotte de Massabielle. Massabielle, ça veut dire la vieille roche, le vieux rocher. Mais les gens du pays, ici, les gens du coin appelaient cet endroit la tute aux cochons. La tute, c'est un mot du patois. Ça veut dire l'endroit, le lieu, donc, où vont les cochons. Tout cela pour nous dire que c'était un endroit particulièrement sale. Bernadette est donc là, immobile. Elle ne peut ni avancer ni reculer, car elle sait bien, Bernadette, que si elle se mouille tant soit peu les pieds, ce sera à nouveau la crise d'asthme. Des années plus tard, 8 ans plus tard exactement, en 1866, Bernadette finira par savoir lire, par savoir écrire et par savoir s'exprimer en français. Et nous avons deux récits des apparitions, deux récits écrits de la main même de Bernadette. Il y a quelques ratures, mais c'est très bien écrit, très lisible. Bernadette commence le récit de la toute première apparition. Donc devant elle, l'eau du canal, derrière elle, l'eau du Gave, face à elle, la grotte de Massabielle. Bernadette commence son récit en disant « À un certain moment, j'entendis comme un coup de vent ». Souvenez-vous de l'importance du vent dans la Bible, ne serait-ce que le jour de la Pentecôte où les disciples, les apôtres réunis en prière avec Marie entendent aussi un coup de vent. Et voici qu'ils voient une boule de feu et qu'ils sont tous remplis d'Esprit Saint. Le vent dans la Bible, c'est toujours le signe de la présence de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu qui est Esprit Créateur. J'entendis comme un coup de vent, nous dit Bernadette, je me retournai donc vers le Gave et je vis que les arbres, ces arbres qui étaient au-delà du Gave, ces arbres qui étaient des peupliers, je vis, précise Bernadette dans son joli langage, que les arbres ne se remuaient pas. Bernadette nous dit qu'elle regarde vers la grotte et que, une seconde fois, j'entendis comme un coup de vent, je me retournai et je vis que les arbres ne se remuaient pas. Bernadette nous dit qu'elle pose alors son regard vers la grotte et voici qu'une immense lumière enveloppait cette grotte. Et au milieu, une petite demoiselle, à peu près grande comme moi, qui me regardait et me souriait. Elle portait une robe blanche, un voile, une ceinture bleue, une rose jaune sur chaque pied, et elle avait un chapelet à la main. Voici la toute première description que Bernadette nous donne de la Sainte Vierge. Elle ne sait pas encore que c'est la Sainte Vierge, elle ne le saura que plusieurs semaines plus tard. une petite demoiselle à peu près grande comme moi. Au moment des apparitions, Bernadette mesurait 1m40. Elle grandira un tout petit peu, elle atteindra 1m44 à la fin de sa vie. Une petite demoiselle qui me regardait et me souriait. Bernadette poursuit son récit et elle nous dit qu'elle a été son tout premier geste à la grotte. Le connaissez-vous ? Tout ça, c'est écrit. Bernadette nous dit « Je me frottais les yeux ». Bernadette se frotte les yeux de feu. Elle est incrédule. Elle ne croit pas. Ce qu'elle voit ne correspond pas du tout à sa réalité. Bernadette n'est pas venue là pour faire une retraite spirituelle ou pour dire son chapelet. Bernadette est venue là pour ramasser du bois, pour le vendre, pour avoir quelques sous, pour acheter un morceau de pain, pour ne pas mourir de faim. Elle et toute sa famille, ça ne correspond pas du tout à sa réalité. Aujourd'hui, les jeunes, quand la réalité ne correspond pas à leur attente, disent un peu tout le temps « mais je rêve ». Et nous-mêmes qui sommes peut-être un peu moins jeunes, quand nous sommes surpris par un événement que nous n'attendions pas, nous disons « mais ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas vrai ». Donc Bernadette, ça ne correspond pas à sa réalité, elle se frotte les yeux. Bernadette poursuit son récit et elle nous dit ensuite « j'eus peur ». Bernadette fait l'expérience de la peur. En effet, plus elle se frotte les yeux, Bernadette, plus elle la voit lui sourire, cette petite demoiselle. Alors Bernadette fait l'expérience de la peur. Ensuite, et ce sera son troisième mouvement, Bernadette nous dit « Je mis la main à la poche, je pris mon chapelet et j'essayais de faire le signe de la croix, mais je ne le pus, mon bras était comme immobilisé, comme paralysé ». Bernadette essaye de faire le signe de la croix, non pas parce qu'elle est une bonne chrétienne, c'est vrai qu'elle est une bonne chrétienne Bernadette, et que chez les Soubirous, on fait sa prière en famille tous les soirs, on va à la messe ensemble le dimanche et les jours de fête. Mais vous avez peut-être vu les joueurs de football avant le match, ils font presque tous le signe de la croix, non pas parce qu'ils sont des bons chrétiens, même si parmi eux il y a des bons chrétiens, mais parce que tout simplement avant le match ils ont peur. Et Bernadette, elle a peur, elle veut repousser, elle veut exorciser cette peur. J'essayais de faire le signe de la croix, mais je ne le pus, mon bras était comme immobilisé, comme paralysé. Bernadette poursuit son récit et nous dit « C'est un moment plus tard, en regardant cette petite demoiselle faire elle-même le signe de la croix, qu'en même temps qu'elle, j'accomplis le premier signe de la croix. » Et instantanément, nous dit Bernadette, non seulement sa peur disparaît, mais encore, elle fait là, devant cette simple grotte, Bernadette, l'expérience de la plénitude du bonheur. Voici que par ce tout premier signe de la croix, qu'elle reçoit comme un immense cadeau, Bernadette passe de sa peur à la surabondance de la joie. Par ce tout premier signe de la croix, qu'elle reçoit comme un immense cadeau, Bernadette passe de ce recroquevillement sur elle-même à une expérience de communion, une expérience d'amour avec cette petite demoiselle. Bernadette sera profondément marquée pour toute sa vie par ce premier signe de la croix, reçu encore une fois comme un immense cadeau, à tel point que le tout dernier geste que Bernadette accomplira sur notre terre, c'est précisément le signe de la croix. Après les apparitions, Bernadette continue à vivre à Lourdes pendant 2 ans avec sa famille. Puis toujours à Lourdes, elle sera pendant 6 ans pensionnaire à l'hospice, donc chez les Sœurs de la Charité de Nevers. Et c'est là qu'à un certain moment, faisant elle-même librement le choix de devenir religieuse et d'entrer précisément dans cette congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers, que Bernadette sera envoyée à Nevers. Elle quitte Lourdes le 3 juillet 1866. Et c'est là, à Nevers, que Bernadette va mourir 13 ans plus tard. Bernadette meurt de tuberculose à l'âge de 35 ans, le 16 avril 1879. Et au moment de son agonie, un grand nombre d'autres sœurs, d'autres religieuses de sa communauté, de ce couvent, ont entouré Bernadette. Et ces sœurs, ces religieuses ont ensuite témoigné, elles ont même témoigné plusieurs fois, nous disant toutes qu'à un certain moment, à toute extrémité, Bernadette a rassemblé ses dernières forces, elle accomplit un ultime signe de la croix et elle expire. Vous voyez, Bernadette entre dans le monde des apparitions, qui est le monde de la Vierge Marie, c'est vrai, mais le monde des apparitions, c'est d'abord le monde du Christ. Le monde des apparitions, c'est d'abord le monde de l'Esprit Saint. Le monde des apparitions, c'est d'abord le monde de Dieu le Père. Bernadette y entre par le signe de la croix. Et en son dernier jour, en sa dernière heure, Bernadette entre dans le ciel de Dieu, elle entre dans l'éternité par le signe de la croix. Oui, Bernadette a été profondément marquée pour toute sa vie par ce premier signe de la croix, reçu encore une fois comme un immense cadeau. Alors quel est-il ce vrai signe de la croix? Ce vrai signe de la croix, car le faux signe de la croix, c'est celui que Bernadette n'a pas pu faire, le signe de la peur, le signe de la superstition. Le vrai signe de la croix que Bernadette reçoit de Marie, c'est celui-là même que nous avons reçu de l'Église. Marie enseigne à Bernadette, en faisant le signe de la croix, à signifier d'abord sa misère. Et Bernadette la connaît, sa misère. Ce jour-là, comme tous les jours précédents, comme tous les jours suivants, en raison de la pauvreté extrême de sa famille, Bernadette a le ventre creux, elle la connaît, sa misère. Bernadette, à 14 ans, ne sait ni lire, ni écrire, ni s'exprimer en français, elle la connaît, sa misère. Bernadette est malade, c'est surtout l'asthme, elle la connaît, sa misère. Bernadette n'a toujours pas fait sa première communion, elle la connaît, sa misère, Bernadette. Eh bien, Marie lui apprend à reconnaître et à signifier toute cette misère par le signe de la croix. Mais en même temps, par le même signe de la croix, Marie enseigne à Bernadette à reconnaître et à signifier qu'elle porte en elle, Bernadette, la vie même de Dieu, dont un jour elle sera appelée à vivre pleinement, à vivre éternellement. Voilà le signe de croix que Bernadette reçoit de Marie. Nous-mêmes, le signe de croix que nous avons reçu de l'Église, c'est le même. Je le dis à la première personne, mais chacun peut en faire de même. Quand je fais le signe de la croix, je commence par dire dans le secret de mon cœur, « Seigneur, je suis un pauvre homme, ma vie est un échec, un jour je vais mourir. » Mais en même temps, par le même signe de la croix, je peux dire, et je dis dans le secret de mon cœur, « Seigneur, je te rends grâce, car tu as mis en moi ta propre vie, dont un jour je vivrai pleinement, dont un jour je vivrai éternellement. » Vous voyez, le vrai signe de la croix, ce n'est pas seulement le signe du crucifié, c'est inséparablement le signe du crucifié et du ressuscité. Le vrai signe de la croix, ce n'est pas seulement le signe de ma mort, c'est inséparablement le signe de ma mort et de la résurrection à laquelle tous nous sommes appelés.
Le Père Régis Marie de la Tessonnière.
Présence à Pamiers, 100.2.
L'heure mariale, la merveille de Lourdes.
Nous sommes en 1955. Ce que nous voulons, c'est travailler à réaliser le programme tracé par le Christ. Les pauvres sont évangélisés. En cet après-midi du 1er août 1955, sur le flanc de la montagne du Béout, à quelques minutes du sanctuaire de la grotte, Mgr Théas, évêque de Lourdes, salue l'ouverture du chantier de la cité Saint-Pierre. Avec le père Jean Rodin, président fondateur du Secours catholique, et le cardinal Lercaro, archevêque de Bologne, il vient de bénir le terrain sur lequel cette maison d'accueil pour les pèlerins les plus pauvres va être érigée par le Secours catholique. Il a posé la première pierre qui provient de la grotte et dans laquelle un document rappelant l'événement est scellé. L'affaire a été rondement menée. Il y a un peu plus de 15 jours, Mgr Théas écrivait au père Rodin « Désireux de faciliter le pèlerinage de Lourdes aux humbles et aux pauvres, j'ai pensé que le Secours catholique pourrait réaliser un projet qui me tient à cœur et qui répond au désir de la chrétienté. Je vous serai donc reconnaissant d'envisager l'organisation à Lourdes d'une cité secours pour pèlerins pauvres. » Ce n'est pas un hasard si l'évêque de Lourdes s'est adressé au père Rodin. L'année précédente, le Secours catholique a ouvert à Paris deux lieux d'hébergement pour les plus pauvres, les cités secours Myriam et Notre-Dame. Mgr Théas connaît ce prêtre au cœur embrasé de charité. Il savait que si le père Rodin acceptait, il irait jusqu'au bout et ferait de cette maison un haut lieu de Lourdes, témoin de la charité de l'Église et de son attention aux plus pauvres. N'est-ce pas l'un des messages donnés par Marie, apparu non pas à un puissant, mais à la petite Bernadette ? La Providence s'est également mêlée de la partie. Au moment où l'évêque lançait sa demande, une famille de Lourdes, les Théillard, décidait de mettre en vente un terrain de 18 hectares. Mgr Théas l'a fait savoir à Jean Rodin qui, avec l'accord de son conseil d'administration, a visité le lieu et l'a acheté. C'était le matin même de la pose de la première pierre et de la bénédiction. Il a également rencontré l'archevêque de Bologne qui accompagnait un pèlerinage à Lourdes et, tout naturellement, lui a demandé de bénir le terrain. Son éminence, le cardinal Lercaro, est une personnalité de l'Église reconnue pour ses initiatives dans le domaine social. La demande de Mgr Théas et du père Rodin le touche. Il faut que les pauvres soient fraternellement aimés pour que la justice de Dieu puisse rayonner ici-bas. Je suis heureux d'avoir été choisi pour bénir le commencement de cette œuvre, explique-t-il. Depuis son nouveau terrain, Jean Rodin contemple Lourdes et le domaine de la grotte. Il garde en mémoire la centaine de milliers de rapatriés venus au pèlerinage qu'il avait organisé ici comme aumônier général des prisonniers de guerre. Il se souvient de ce dimanche 8 septembre 1946 et de la messe célébrée par Mgr Piguet, évêque de Clermont-Ferrand, déporté à Dachau, et 17 prêtres déportés, symbolisant toutes les messes dites dans la clandestinité pendant les 5 années de guerre. Il se souvient surtout de ces pèlerins rassemblés sur la prairie devant la grotte. Ils formaient une grande carte vivante où tous s'étaient regroupés selon leur lieu de détention. Ensemble, ils avaient accueilli les malades, entendu le sermon du père Riquet, prédicateur de Notre-Dame, qui avait été déporté à Fresnes, Compiègne, Mauthausen et Dachau. Enfin, ils avaient accueilli la procession du Saint-Sacrement. À la nuit tombée, la lumière du cierge de Bernadette s'était communiquée à l'ensemble des pèlerins rassemblés devant la grotte. Une immense contagion de lumière évoquant la parole de l'Évangile. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Il revoit cette gigantesque procession au flambeau se mettre en route, la foi illuminante et embrasant le monde, la charité en marche. Le père Rodin se retourne vers la première pierre de la cité Saint-Pierre. La charité qui doit sauver le monde, c'est elle qu'il essaie de communiquer à travers le Secours catholique qu'il a créé en 1946. Pour lancer cette immense entreprise, il s'est appuyé sur son expérience des réseaux familiaux et amicaux mis en place durant la guerre. Avec une structure bien pensée, avec une volonté de pédagogie et d'information, il organise des équipes de bénévoles qui font vivre la solidarité. Il a créé le journal Message, dont le tirage a vite atteint les 40 000 exemplaires afin de lutter contre l'ignorance qui est le premier obstacle à la solidarité. La charité est autre chose qu'un distributeur automatique, même perfectionné. Plutôt que d'avoir un gigantesque service distributeur, il vaut mieux éveiller, dans toute la chrétienté, le sens du partage. Monseigneur Théas, le cardinal Lercaro et le père Rodin regardent la pierre, cette pierre de la grotte, cette pierre de l'évangile qui est déjà, pour eux, le symbole de la charité au cœur du sanctuaire. Dans le silence de leurs âmes, ils confient à Dieu tous ceux que la cité hébergera bientôt. Ils sont loin de se douter qu'elle accueillera un jour 20 000 pèlerins par an, 20 000 pauvres parmi les pauvres, pour qui l'autel est inaccessible. 20 000 pauvres à qui la cité Saint-Pierre permet ce voyage dans l'espérance, dont ils ont tant besoin pour retrouver un sens à leur vie. En ce 1er août 1955, les trois hommes rassemblés sur la colline du Béhout ne peuvent que pressentir l'immense attente de ces cœurs de pauvres assoiffés d'un peu d'espérance et de fraternité humaine. Qui plus qu'eux mérite une maison à Lourdes ? Peut-être les trois hommes pensent-ils dans le secret de leurs âmes à celui qui n'a trouvé que des portes fermées dans toutes les auberges de Bethléem. Désormais, quand ses frères et sœurs se présenteront à Lourdes, une porte leur sera toujours ouverte et une main amicale tendue.
Présence.
Radio Présence à Foi 100.2.
Histoire de Lourdes, un rendez-vous proposé par Olivier Robert.
retour de la pluie sur Lourdes me transporte en esprit à Fatima, où la pluie tombait à verse lors de la dernière apparition, celle du 13 octobre 1917. Ce jour-là, à un certain moment, le reflet de la lumière de Marie s'est projeté sur le soleil et la pluie a immédiatement cessé. Les nuages se sont dispersés pour laisser apparaître un ciel clair. Puis, le soleil s'est mis à trembler avec des mouvements brusques, à tourner sur lui-même à une vitesse vertigineuse, lançant des gerbes de lumière de toutes les couleurs. Il a semblé se détacher du ciel et avancer en zigzagant sur la foule. Instant terrifiant. Puis il a arrêté sa course pour reprendre sa place dans le ciel. Cet événement me marque surtout par le reflet de la lumière de Marie sur le soleil. Inexplicable scientifiquement et inimaginable intellectuellement. Mais pourtant bien réel puisque des milliers de personnes présentes à Fatima ce jour-là ont vu cela de leurs propres yeux. Les signes observés le 13 octobre à Fatima ressemblent à ceux manifestés à Bernadette lors des apparitions à la grotte. On y retrouve l'eau, la foule et la lumière dans le reflet éblouissant du ciel sur le visage de Bernadette. Alors, aujourd'hui, j'ai pensé que Lourdes, c'était ça, un reflet du ciel. Ézéchiel 1, 28. C'était le reflet de la glorieuse présence du Seigneur.
Ce récit est extrait du livre « Lourdes, ambassade du ciel » de Laurent Jarnot aux éditions du Toucan.
Radio Présence à Montauban, 93.3. Rencontre avec nos évêques. Rencontre avec nos évêques, un temps privilégié avec nos pasteurs et témoins de la foi. Chaque dimanche à 8h30 et 18h15, un évêque de la région s'entretient avec Mathias Terrier ou Thibaud d'Autuil.
Présence, buvez à la source.